Hier, nous étions quelques-uns à entourer Samuel et Jenny pour leur mariage. Et j'avais l'honneur et la responsabilité de présider cette cérémonie religieuse. Et juste après la cérémonie, je commence à discuter avec le responsable de la sono, de la partie technique, qui allait être certainement le DJ de la soirée. Et il me demande comment je suis payé pour ce que je viens de faire et comment sont payés les pasteurs. Alors je lui dis que je vis essentiellement des dons des fidèles et que je ne suis pas payé pour présider cette cérémonie. Ce qui ne semble pas vraiment coller avec ses valeurs. Et il me parle alors de son gagne-pain, comme il dit. Et il m'explique que lui, il organise 100 mariages par an. Vous imaginez, un week-end sur trois, il est là à organiser un mariage, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie, et apparemment il gagne bien sa vie. Vous savez pas ce qu'il me dit? Il me tend une carte de visite, et il me dit, bah tiens, appelle-moi dans la semaine, et puis voilà, j'aurai besoin d'un pasteur pour animer les soirées des mariages. C'est pas un truc de dingue, ça. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Est-ce qu'il a trouvé que j'avais bien animé la cérémonie religieuse? Il m'encourage à ne pas me satisfaire de ma paye, ma petite paye de pasteur. Il m'offre une promotion. Et je me prends quelques instants à m'imaginer en pasteur, animateur de soirée de mariage. J'ai qu'un regret, c'est de ne pas lui avoir donné un évangile. Voilà. Et après ce bref moment où je m'imagine animateur de soirée, j'ai bien rigolé. Animer des soirées de mariage et gagner sa vie de cette manière, c'est pas un problème en soi. Quel était le problème là? C'est le contraste entre deux façons de voir la vie, entre deux mentalités. Une qui dit « je compte sur la foi en Dieu seulement ». Et l'autre qui se dit « je ne me satisfais pas de recevoir quelque chose, il faut que je pourvoie moi-même à mon bonheur ». Si je devenais pasteur, animateur de soirées de mariage, il y a fort à parier que mon but dans la vie deviendrait vite de gagner de l'argent et que l'étiquette de pasteur deviendrait un prétexte, une étiquette religieuse. Et j'aurais alors transformé l'appel de Dieu en commerce. C'est une illustration, les amis, de ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Et j'aimerais lire avec vous la fin de cette lettre aux Galates qui nous a accompagnés pendant toute une année. Nous allons lire ce matin dans l'épître aux Galates au chapitre 6, à partir du verset 11 et jusqu'à la fin de la lettre au verset 18. Épître de Paul aux Galates, chapitre 6, à partir du verset 11. Vous remarquez ces grandes lettres, dit Paul. C'est bien de ma propre main que je vous écris. Ceux qui vous imposent la circoncision sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils n'ont qu'un seul but, éviter d'être persécutés à cause de la mort du Christ sur la croix. Car ceux qui pratiquent la circoncision n'observent pas la loi, eux non plus. S'ils veulent vous faire circoncire, c'est pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé cette marque dans votre corps. En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. En fait, peu importe d'être circoncis ou incirconcis, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Que la paix et la grâce de Dieu soient accordées à tous ceux qui suivent cette règle de vie, ainsi qu'à l'Israël de Dieu. Désormais, que personne ne me cause plus de peine, car je porte sur mon corps les cicatrices des blessures que j'ai reçues pour la cause de Jésus. Chers frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Terminons donc ce matin cette série de prédications sur l'Épître aux Galates. Et Paul nous dit ici au verset 11, le premier verset de notre passage, qu'il écrit en grosses lettres. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il a un problème de vue. Nous l'avions déjà évoqué quand nous avions lu le chapitre 4 et le verset 15, où il disait à ses Galates, « Je l'atteste, si la chose avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Paul évoque le moment où il est arrivé dans ces églises de la Galatie et où il était apparemment malade, souffrant, peut-être avec un problème des yeux, peut-être en lien avec une maladie, nous ne savons pas exactement. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, à la fin de cette lettre, il dit « Vous remarquez ces grandes lettres avec lesquelles j'écris, parce qu'il ne voit pas bien. » C'est possible, mais il y a une raison peut-être plus probable. Si Paul écrit en grosses lettres, c'est parce qu'il veut insister sur ce qu'il écrit en conclusion. Comme si, avec son feutre fluo, il surlignait. Certains d'entre vous surlignent avec un feutre fluo certains versets dans leur Bible. Eh bien, c'est un peu ça que Paul est en train de faire, là. Il surligne, ou si on écrit à l'ordinateur, il écrit en gras, souligné, ou en lettres majuscules. Si vous avez un texte écrit en lettres minuscules et que vous écrivez la fin en lettres majuscules, ça se voit, ça ressort du texte. C'est comme si Paul disait à ses chrétiens galates et nous disait aussi à nous, lecteurs, attention, ce que je dis en conclusion, c'est pas une annexe. C'est très important. Écoutez, lisez attentivement, je souligne. Alors, que souligne Paul ? Qu'a-t-il de si important à nous dire en conclusion de toute cette lettre ? Deux choses que j'aimerais développer avec vous ce matin. Il faut choisir entre être fier de soi et être fier du Christ. Et là, on a un résumé de cette épître aux Galates. Être fier de soi, avoir confiance dans les combines humaines, à l'exemple des faux enseignants, ou être fier du Christ, placer en Dieu seul sa confiance, à l'exemple de Paul. Et nous allons voir ensemble ces deux points. Premier point, être fier de soi. Paul critique de nouveau les faux enseignants qui influencent négativement la foi des Galates. Leur discours nous est connu maintenant. Nous l'avons mentionné plusieurs fois dans cette série de prédications. Vous pourrez le retrouver dans Actes chapitre 15, verset 1. Ces judaïsants, ces faux enseignants, que disent-ils ? Ils disent, si vous ne vous faites pas circoncire, vous ne pouvez pas être sauvés. Pour nous, la circoncision, c'est quelque chose qui peut nous paraître un peu bizarre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes circoncises parmi nous. C'est un geste rituel, religieux, que l'on accomplissait pour dire, voilà, je fais partie d'un peuple. Et les Juifs disaient, voilà, je fais partie du peuple juif, j'ai été circoncis. Et ceux qui se tournaient vers Jésus disaient, mais oui, moi aussi je fais partie du peuple d'Israël, j'ai mis ma foi en Jésus, mais pour être vraiment sûr d'être sauvé, il faut que j'accomplisse la loi des Juifs, que je me fasse circoncire, que j'obéisse à tous les commandements de la loi de Moïse, et comme ça, je suis sûr d'être sauvé. Ces gens disaient donc que la foi en Jésus ne suffit pas, il fallait compléter par une action humaine, une action d'obéissance à la loi. Et ces gens veulent imposer ce rite de la circoncision à ceux qui deviennent chrétiens. Dit autrement, il pense que pour être un bon chrétien, il faut être d'abord un bon juif. Et Paul nous donne plusieurs raisons pour lesquelles ces hommes, que Paul qualifie de faux enseignants, pour lesquels ces hommes imposent le rite de la circoncision. Paul nous donne trois pistes ici. Il dit, ils veulent se faire bien voir. Ils veulent faire bonne impression. Ils veulent recevoir des éloges quelque part parce qu'ils ont fait un grand nombre de circoncis, de convertis, de disciples, qu'ils peuvent compter, ils peuvent faire des statistiques. Voilà, ce mois-ci, cette année, combien de personnes se sont fait circoncis. Gloire à Dieu, et puis on est fiers de nous quand même. Parce que c'est nous qui les avons circoncis, qui les avons fait circoncire. On pourrait faire le parallèle aujourd'hui avec une église qui focaliserait toute son attention sur les chiffres visibles de sa croissance en nombre de personnes qui viennent au culte, en nombre de personnes qui se font baptiser, en nombre de personnes qui deviennent membres. Et c'est ça qui compterait le plus, le chiffre. Et on pourrait faire des statistiques, et c'est pas mal de faire des statistiques. Mais finalement, ces statistiques deviendraient un but en soi. Et on pourrait être fier de nous parce qu'on a des belles statistiques. Le risque ici, c'est de perdre le sens de ce qu'on fait, et en particulier de ce qu'on croit, au profit du chiffre visible. Et la circoncision, c'était un acte visible, alors que la foi, comment est-ce que ça se mesure? Premier point donc, ces faux enseignants veulent se faire bien voir. Et la raison pour laquelle ils veulent se faire bien voir, Paul le dit, c'est parce qu'ils veulent se glorifier, se vanter à travers la circoncision des autres. Le culte des chiffres mène à l'orgueil, à moins que ce soit l'orgueil, la source de la gloire des chiffres, je ne sais pas. Si les faux enseignants imposent la circoncision, Paul dit, c'est pour leur propre gloire, pas pour celle des gens qui se font circoncire, mais pour eux-mêmes. Ils ont fait leurs disciples. Ils sont fiers d'eux. Troisième raison pour laquelle ils agissent de cette manière, Paul dit, ils ne veulent pas être persécutés pour la croix du Christ. Ça, c'est pas forcément facile à comprendre. En quoi Jésus et son œuvre à la croix sont-ils source de persécution? Qu'est-ce qui pousse le monde à rejeter la croix et à persécuter ceux qui mettent leur confiance en cette croix? Je reprends ici quelques éléments que nous avons vus dans les chapitres précédents. Paul dit, si le Christ est mort, c'est parce que le monde a un problème. Le monde tourne mal parce que le mal nous conduit à la mort. Le Christ est mort pour nous, pécheurs. Il a pris notre condamnation. C'est ce que Paul dit au chapitre 3 et au verset 13. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. La croix vient révéler le mal et le péché des hommes. Et les hommes ne veulent pas se remettre en question. Ils veulent se débrouiller sans Dieu. Si le Christ est mort, c'est parce que sans le pardon de Dieu, on ne peut pas être juste devant Dieu. Or, Dieu exige un 20 sur 20. Ça aussi, je l'avais développé dans cette série de prédications. Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu ne tolère pas le mal. Et Dieu ne se contente pas que nous ayons 10 sur 20, ou 12 sur 20, ou même 19,5 sur 20. Il faut 20 sur 20. Et ça, C'est impossible, comme le disait Simon tout à l'heure. C'est impossible parce que le péché nous pousse à transgresser la loi de Dieu. Et donc nous avons deux solutions. Soit continuer à essayer par nous-mêmes d'avoir 20 sur 20, et la Bible nous dit c'est impossible. Soit reconnaître que c'est impossible et mettre notre confiance en celui qui a eu 20 sur 20, Jésus-Christ. Vous voyez, la croix, c'est le symbole de l'échec de notre propre justice. La croix nous rappelle qu'il y a un seul juste devant Dieu, et c'est Jésus. La croix nous rappelle que c'est son 20 sur 20 à lui qui couvre notre échec si nous venons à lui pour être sauvés. La croix du Christ nous remet à notre place d'homme et de femme pécheur qui a besoin d'un sauveur. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable parce que ça veut dire qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. Qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, que nous ne sommes pas notre propre Dieu. C'est une vérité qu'on ne veut pas entendre, que nos compatriotes, que nos concitoyens aujourd'hui ne veulent pas entendre. Et c'est vos enseignants, dans notre épître aux Galates, en imposant la circoncision, ils flattent chez les Galates cette part d'eux-mêmes qui voudraient bien faire quelque chose pour se sauver soi-même. Avec cette marque dans le corps, la circoncision, on peut se dire, oui, je suis quand même quelqu'un de bien, parce que j'ai fait quelque chose pour être quelqu'un de bien. Et Paul nous dit que ça, c'est une illusion, parce que même ceux qui pensent être justes ne le sont pas. Verset 13. Ceux qui pratiquent la circoncision n'observent pas la loi, eux non plus. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour respecter la loi et se dire, voilà, je suis juste devant Dieu parce que je respecte la loi. Mais ils ne la respectent pas à 100%. Transgresser un commandement de la loi, c'est transgresser toute la loi. Conclusion de ce premier point. L'être humain n'a aucune raison d'être fier de lui. Pourtant, l'être humain est créé comme image de Dieu. Et ça, c'est un sujet de fierté. Mais le péché a contaminé tous les domaines de la vie humaine. Par notre naissance naturelle, nous sommes et nous restons des créatures faites à l'image de Dieu. Mais nous avons rejeté, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, notre Créateur. Et cela nous condamne à ses yeux. Et il n'y a que la foi en Jésus comme moyen pour être sauvé. Aucun rituel religieux ne peut quoi que ce soit pour nous rendre plus justes devant Dieu. Venir à l'église, lire la Bible, prier, prendre la Sainte Cène, se faire baptiser, etc., etc. Ce sont des choses importantes. Mais rien de tout ça ne peut nous rendre meilleurs devant Dieu. Il n'y a qu'une chose qui peut nous rendre meilleurs devant Dieu. C'est de renoncer à nous rendre meilleurs devant Dieu et de reconnaître que Jésus a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Alors, je vous invite à prendre à la maison un petit bout de papier, peut-être si vous en avez un maintenant, vous pouvez le faire, et à vous poser deux questions. Qu'est-ce que je fais dans ma vie en me disant, voilà, grâce à cela, Dieu va m'aimer plus? Réfléchissez quelques instants à cette question. Qu'est-ce que je fais dans ma vie en me disant, grâce à cela, Dieu va m'aimer plus? Deuxième question, qu'est-ce que j'essaye d'éviter de faire dans la vie, en me disant, si j'arrive à éviter ça, Dieu m'aimera plus. Fumer, boire, j'en sais rien. Ce que vous voulez. Donc, première question, qu'est-ce que je fais en me disant, si j'arrive à faire ça, Dieu m'aimera plus. Et qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que j'évite de faire en me disant, voilà, en ne faisant pas cela, Dieu m'aimera plus. Vous pouvez noter ça sur un papier, et après vous déchirez ce papier, et vous gardez ce papier déchiré. Parce que vous n'y arriverez pas. Il n'y a rien que vous puissiez faire, ou éviter de faire, qui fera que Dieu vous aimera plus. Notre fierté en nous-mêmes est limitée. Devant Dieu, il n'y a pas de quoi être fier. Mais ça, c'est seulement le premier point. Je vais vous montrer maintenant de quoi nous pouvons être fiers. Après avoir parlé des faux enseignants, Paul parle de son propre exemple. Il a montré ce qui motivait la fierté de ces hommes, et c'est l'orgueil. Paul, de quoi est-il fier, lui? Il nous le dit au verset 14, je le relis. « En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. » Qu'est-ce que cela veut dire? De quoi Paul est-il fier? Paul est fier de l'œuvre de Jésus à la croix, pas de son œuvre à lui. Pourtant, nous, quand on voit l'exemple de Paul, on pourrait penser qu'il y a de quoi être fier. Il a fait beaucoup de choses. Le choix est radical ici. C'est ou je suis fier de moi, ou je suis fier de Christ. Soit la croix est pleinement suffisante pour me sauver, il n'y a rien à ajouter. Soit j'ajoute quelque chose en me disant, voilà, si je fais ça, Dieu m'aimera plus. Et alors, je perds tout le bénéfice de l'œuvre de Jésus à la croix. Or, pour un chrétien, il y a une double crucifixion, une double mort. Il y a celle de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Et puis, il y a aussi notre propre mort. Grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, ma vie de créature rebelle est derrière moi, si j'ai placé ma confiance en Jésus. Et c'est pour ça que Paul dit « Le monde est crucifié pour moi ». Ça veut dire « J'ai été pardonné ». Ma vie d'avant est terminée. Je démarre une nouvelle vie. Le monde, c'est-à-dire ma façon de vivre d'avant, ma rencontre avec le Christ, cette vie-là, elle est derrière moi. Cette vie-là, elle est morte. Cette vie-là, elle a été crucifiée avec le Christ il y a 2000 ans. Mais Paul nous dit aussi que grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous ne dépendons plus spirituellement de ce monde, c'est-à-dire de sa mentalité, de ses priorités, comme ce DJ qui me proposait d'arrondir mes fins de mois de pasteur. Si nous sommes chrétiens, nous pouvons nous dire « J'ai été racheté, j'ai changé de camp, je suis passé du camp ennemi au camp des alliés, j'ai changé de patron, le patron, ce n'est plus moi, c'est Jésus. » Le groupe chrétien Antidote a un chant qui s'intitule « Rien ne peut changer ça ». Je vous lis quelques paroles qui illustrent ce que Paul dit ici quand il dit que j'ai été crucifié pour ce monde. C'est-à-dire, je n'appartiens plus à la mentalité de ce monde. Voilà ce que dit ce chant. Dans le cimetière du péché, tu peux voir ma pierre tombale. Tu n'y trouveras plus mon adresse si tu me cherches dans l'empire du mal. Dans la clinique céleste, mon nom est sur le registre, plus que jamais vivant, dans l'union avec Jésus-Christ. Et un peu plus loin, le refrain dit « Rien ni personne ne pourra changer ça. » Rien ni personne ne pourra changer ça. J'étais au cimetière dans ce monde. Et Dieu m'en a arraché à la croix du Christ. Il m'a fait passer de la mort à la vie. Et maintenant, mon nom est dans le registre de la clinique céleste. C'est une image, hein. Rien ni personne ne pourra changer ça. Si je suis chrétien, je suis donc une nouvelle créature, une nouvelle création, parce que j'ai été transformé par l'Esprit de Jésus qui habite maintenant en moi. Et ça, c'est ma nouvelle réalité. Notez que certaines transformations dans ma vie, dans notre vie, prennent du temps pour être visibles. Mais le fait est que nous changeons en mieux. Et c'est ce que Paul nous a déjà dit au chapitre 5. C'était aussi ce qui était sur les tables de nos jeunes mariés hier pour le repas. Ce fruit de l'esprit que nous portons quand nous sommes chrétiens. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nous avons tous du travail dans chacun de ces domaines. Mais nous changeons. Dieu nous transforme, Dieu nous fait progresser. Même si c'est lentement, nous progressons. Nous changeons, nous sommes une nouvelle créature. Et Paul le dit très clairement, et c'est probablement un des versets clés de toute cette lettre, et le verset clé de ce passage, le verset 15. Peu importe, finalement, d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Paul le dit aussi dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées derrière nous. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà le titre de cette prédication. Le chrétien, une nouvelle création. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle création, de cette transformation? Paul en mentionne deux ici. Verset 16 et verset 17. Que la paix et la grâce de Dieu soient accordées à tous ceux qui suivent cette règle de vie, ainsi qu'à l'Israël de Dieu. Désormais, que personne ne me cause plus de peine, car je porte sur mon corps les cicatrices des blessures que j'ai reçues pour la cause de Jésus. Paul parle d'une règle. Il dit à ceux qui suivent cette règle de vie. Cette règle, c'est la priorité de notre transformation intérieure, la priorité d'être une nouvelle créature. Priorité par rapport à des rites extérieurs, par rapport à notre religion extérieure. Ce qui compte d'abord, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce qui compte d'abord, c'est ce que nous faisons et qui manifeste une transformation intérieure, qui transforme notre vie de couple, qui transforme notre vie de famille, qui transforme notre vie d'église, nos relations entre frères et sœurs. Et c'est pour ça que Paul parle ici de l'église comme l'Israël de Dieu. Il dit, tous ceux qui suivent cette règle, c'est-à-dire, il faudrait traduire, c'est-à-dire l'Israël de Dieu. Ici, l'église et l'Israël de Dieu ne sont pas deux choses différentes. L'église, c'est-à-dire l'Israël de Dieu. C'est-à-dire que, en tant que chrétiens, nous faisons partie du peuple de Dieu, des croyants de tous les temps. Paul parle ici de tous ceux qui, non seulement disent « Jésus, Jésus », mais dont l'Esprit de Jésus transforme concrètement la vie. Et là, on revient encore au fruit de l'Esprit. Comment est-ce que nous progressons dans l'amour, dans la joie? Pas seulement pour des anniversaires, même si c'est important, mais dans la joie, dans les relations avec les collègues, avec le patron, même quand ça se passe mal. La paix, etc. Et justement, Paul revient ici sur la paix. Il dit « paix et miséricorde, grâce sur tous ceux qui suivent cette règle. » D'abord, être une nouvelle créature. Pourquoi la paix et la miséricorde? Parce que quand on compte seulement sur l'œuvre de Jésus pour être sauvé, cela nous donne la paix. Là où nous étions tourmentés à chercher l'approbation de Dieu, nous sommes tranquilles. Nous sommes libérés de devoir prouver à Dieu notre justice. C'est Christ, notre justice, notre paix. Dieu nous a fait grâce. Nous ne méritons pas sa faveur, mais à cause de Christ, il nous accueille en sa présence. Encore mieux, il met en nous son esprit. Un chrétien digne de ce nom doit progresser dans la paix et dans la grâce. Si nous sommes tout le temps en tension ou en conflit, et si nous sommes tout le temps à juger les autres, il y a un problème. Paix et grâce sur tous ceux qui suivent cette règle. Nous ne sommes pas d'abord sauvés par une pratique religieuse, mais parce que Dieu fait de nous une nouvelle créature. C'est là tout le message de l'Évangile, tout le message de cette lettre aux Galates. Paix et miséricorde, ça n'a rien à voir avec le fait d'être zen, comme on dit aujourd'hui. Dans la lettre aux Galates, cela veut dire avoir la conscience tranquille. Plus de honte, plus de culpabilité à entretenir. Nous sommes une nouvelle créature. Et quand elle oublie cette règle, l'Église se divise. C'est la paix qui s'en va. Quand elle oublie cette règle, les chrétiens se jugent les uns les autres et la grâce disparaît. C'est absolument essentiel ce que dit Paul ici. Et c'est pour ça qu'il le met en gros caractères. C'est essentiel pour notre foi personnelle et c'est essentiel pour la santé de l'Église. Comment sommes-nous sauvés? Réponse, par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Point final. Je répète, comment sommes-nous sauvés du péché, de l'esclavage de la loi? Réponse, toute cette lettre aux Galates, par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Point final. Si nous ajoutons une œuvre à nous, nous perdons Jésus. Avant la bénédiction finale, Paul mentionne une troisième conséquence de cette règle, peut-être plus difficile à entendre, et qu'il dit au verset 17, c'est la persécution. Il dit, maintenant que personne ne me cause plus de peine, car je porte sur mon corps les cicatrices des blessures que j'ai reçu pour la cause de Jésus. Ce n'est pas parce que Paul a été persécuté qu'il est sauvé. C'est parce qu'il est sauvé qu'il est persécuté. C'est parce qu'il témoigne, justement, et en particulier auprès de ses compatriotes juifs, qui disent, si, si, fais-toi circoncire, sinon tu n'es pas sauvé. Et Paul dit, non, la foi en Jésus suffit. Et on le pourchasse de ville en ville, et on le lapide, on le persécute. On le fera. Défendre notre salut par la foi seule et résister à la tentation qui nous est si souvent proposée de le mériter, de pourvoir nous-mêmes à notre propre bonheur. Cela peut parfois nous amener à subir des moqueries, des humiliations, des blessures physiques, ici pour l'apôtre Paul, et même pour certains de nos frères et sœurs, la mort. C'est une réalité. Ça n'arrive pas tous les jours pour nous, mais rappelons-nous que Jésus lui-même n'a pas évité cette réalité. Et il n'a pas caché cette réalité à ses disciples. dans le même passage de Jean 14, 15, 16 qu'on a lu tout à l'heure, il avertit ses disciples. Il leur dit, les gars, vous n'êtes pas plus forts que moi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cela fait partie du témoignage. Et être disciple de Jésus peut aller jusque-là. Et dans ces moments-là, il nous faut tenir ferme dans la foi. Et la seule manière de tenir ferme, c'est, une nouvelle fois, de compter sur la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que Paul termine cette lettre, et que nous allons terminer cette série de prédications avec ce verset 18. Chers frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Paul avait commencé sa lettre avec le mot grâce. Chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Paul reprend ce même mot qui résume à lui seul toute cette lettre aux Galates. Nous sommes sauvés par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort à notre place pour nos péchés. Et ça, c'est une grâce. Nous ne le méritons pas. Nous ne pouvons pas le mériter. C'est une grâce de la part de Dieu. Chers frères, chères sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Apprenons à être moins fiers de nous-mêmes et de plus en plus fiers de Jésus-Christ. Et c'est cela, c'est là que nous pouvons trouver notre fierté. Soyons donc fiers de Jésus-Christ, de ce message de l'Évangile, et partageons-le autour de nous pendant cette semaine. Nous allons prier. Seigneur, sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Et nous avons besoin que tu nous aides à le croire. Parce que nous avons tendance à dire, oui, tu as tout accompli, mais on va t'aider quand même. Seigneur, si tu as vraiment tout accompli, alors aide-nous à te faire confiance pour tout. Pour notre travail, pour notre santé, pour notre vie d'église, pour notre vie de famille. Aide-nous à compter sur toi. Non pas que tu vas nous donner tout ce que nous désirons ou tout ce que nous imaginons, mais tu vas nous conduire vers toi, vers ce que tu veux pour nous et qui est bon. Apprends-nous à marcher avec toi par la foi, et par la foi seulement. Que notre vie, notre comportement, notre caractère, nos choix, nos décisions, nos actes, soient un reflet de ce que nous croyons, de la foi que nous mettons dans le sacrifice de la croix. Cette croix qui nous rappelle notre échec. Mais cet échec, s'il est douloureux à vivre, est aussi ce qui peut nous libérer. Parce qu'il nous fait comprendre que toi, tu es le juste. Que toi, tu veux nous aider. Parce que tu es allé jusqu'au bout. Tu es le fidèle. Aide-nous à nous appuyer sur toi. Merci de nous avoir fait parcourir toute cette lettre aux Galates. Aide-nous à ne pas oublier ce beau message. Peu importe la pratique religieuse, ce qui compte d'abord, c'est d'être une nouvelle créature. Amen.